Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
C'est une tradition aux États-Unis. À minuit la nuit dernière, le premier bureau de vote a ouvert à Dixville Notch dans le New Hampshire. Le scrutin n'a duré que quelques minutes, seulement 6 inscrits.
C'est vraiment très serré.
Résultat, 3 voix pour le républicain Donald Trump, 3 autres pour la démocrate Kamala Harris. Une égalité parfaite, à l'image des sondages qui ne sont pas parvenus à départager les deux candidats durant la campagne. Quelle Amérique sortira des urnes ? L'Europe, elle aussi, retient son souffle.
Jamais une élection présidentielle américaine n'aura eu autant de conséquences ou pourrait avoir autant de conséquences sur la France, sur l'Europe et sur le monde.
Une victoire de Donald Trump inquiète parce qu'il pourrait lâcher l'Ukraine en pleine guerre avec la Russie et parce qu'il ne compte pas faire de cadeaux aux Européens, au contraire.
The most beautiful word in the dictionary to me is tariff. I'm going to impose a tariff on the outside world and they're going to pay it for their privilege of coming in and robbing our jobs and robbing our companies.
Le monde, selon Kamala Harris, serait-il plus apaisé?
We are not going back because America is ready for a fresh start.
Si elle est élue, la démocrate renouvellera son soutien au président ukrainien et à l'OTAN. Mais sur le plan économique, elle se montrera tout aussi protectionniste que Joe Biden ces 4 dernières années. Alors l'avenir de l'Europe dépend-il du scrutin qui se joue en ce moment aux États-Unis? Faut-il avoir peur de Donald Trump ou peut-il ramener la paix, comme l'assure l'un de ses fidèles soutiens, le premier ministre hongrois Viktor Orban? Kamala Harris ou Donald Trump, à quelles conséquences l'Europe doit-elle s'attendre?
Les réponses de nos 3 experts. Nicolas Tenzer, bonsoir, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions stratégiques. Votre dernier essai, Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique, est paru à l'Observatoire. Selon vous, l'avenir de l'Ukraine se joue en partie aujourd'hui donc, hein, avec Trump élu. Kiev ne pourrait plus compter sur les États-Unis, mais il y a aussi une ambiguïté sur ce que serait l'engagement de Kamala Harris, présidente, donc, quand on considère celui de Joe Biden jusque-là, qui, d'après vous, n'est pas suffisant. On y reviendra. À côté de vous, Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne. Bonsoir Natacha Polony. Selon vous, on a plus de mal à admettre la guerre commerciale avec les États-Unis qu'avec la Chine, par exemple, parce que les États-Unis sont nos alliés, nos libérateurs dans un temps ancien, mais nos alliés ne sont pas forcément des amis aujourd'hui. Ce n'est pas une relation d'égal à égal avec les États-Unis. Vous trouvez que c'est une relation féodale. Eux sont les seigneurs et nous les vassaux. Et Alexandra de Hubschefer, bonsoir madame, politologue spécialiste des États-Unis. Vous êtes la présidente du think tank transatlantique German Marshall Fund of the, eh ben je n'arrive plus, of the United States. Je n'arrivais pas à me relire. Et selon vous, Alexandra de Hubschefer, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump élu, donc, il y aura une continuité dans la politique américaine, le protectionnisme économique, mais également la Chine, d'abord considérée comme la principale menace, bien sûr, et puissance pour les États-Unis, menace comme puissance pour les États-Unis. L'Europe devient une variable d'ajustement. On en est là. Et on va démarrer, Frédéric, avec la déclaration du jour.
Oui, je mettrai fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Promesse réitérée par Donald Trump tout au long de sa campagne présidentielle. Je connais bien Poutine et Zelensky, dit-il, donc je pourrais obtenir un deal, un accord. Nicolas Tenzer, un accord accommodant avec la Russie, c'est le scénario le plus probable si Trump l'emporte ?
Oui, c'est évidemment, je dirais, au-delà de l'avantardise habituelle de Trump, le scénario le plus probable, parce qu'on ne peut pas régler une guerre en un jour, ni en deux, ni en une semaine, ni même en un mois, évidemment. D'abord parce qu'il faut être deux pour régler une guerre. Ensuite, parce que le sujet n'est pas de terminer la guerre. Le sujet, c'est que l'Ukraine gagne et que la Russie soit défaite. C'est-à-dire que quand vous avez une guerre d'agression, que vous avez des crimes de guerre contre l'humanité, de génocide, d'agression qu'ils ont commis, le sujet n'est pas de terminer la guerre, c'est tout simplement de faire que l'Ukraine gagne, aussi parce que la sécurité de l'Europe est en jeu. Et que de ce point de vue-là, Trump ne se soucie absolument pas de l'Europe, ni sur le plan économique, ni sur le plan sécuritaire. C'est ça le vrai sujet.
Alexandra de Hubschefer, derrière cette phrase de Donald Trump, il y a quoi ? Il y a une forme de troc, de marchandage, disant aux Ukrainiens, laissez tomber les territoires actuellement occupés par la Russie, on pense à la Crimée, au Donbass, et puis comme ça, on arrive à un cessez-le-feu, et puis au revoir tout le monde.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de discussion a déjà lieu aujourd'hui, avec l'administration Biden actuellement. Et je dirais même ici en Europe, hein. C'est-à-dire que, alors moi ça fait maintenant 20 ans que je travaille dans les relations transatlantiques, là j'ai fait une grosse tournée aux États-Unis à travers l'Europe, et je pose la question à nos homologues européens, si Trump se ramène avec un deal en 24 heures. Et il faut le croire. Hein. Voilà, un cessez-le-feu, c'est-à-dire un gel, en fait, de la situation, c'est-à-dire la région du Donbass acquise à la Russie, la Crimée, et puis le reste plus ou moins à l'Ukraine. Bon, un gel de conflit très imparfait. Comment réagiriez-vous? Et la plupart des capitales européennes répondent, bah, écoutez, on va riposter publiquement parce qu'on va dire on n'est pas content, mais finalement, ça nous arrange aussi.
Mais donc pardonnez-moi, vous dites que l'idée de la négociation est une idée qui est en train de progresser au-delà même de Trump.
Mais bien sûr.
Puisque, et indépendamment de lui.
Bien sûr, puisque l'Amérique aujourd'hui, que ce soit Biden, Trump ou Harris, est fatiguée également de cette guerre. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a les tensions avec la Chine, l'escalade dans le détroit de Taïwan, mais également maintenant le Proche-Orient, qui est en train de réhaper l'Amérique, y compris militairement dans la région. Donc, ce que nous, Européens, on doit comprendre, c'est que les États-Unis, de toute façon, vont devoir prioriser. Et l'Europe et l'Ukraine ne sera pas la priorité.
Alors justement, comment cette élection américaine est-elle perçue en Ukraine? Je vous propose d'écouter le président Zelensky. Lui, il veut croire que Donald Trump sera plus solidaire avec l'Ukraine que ce qu'il laisse entendre pour l'instant.
Not to support Ukraine, I think it will be a big win of Putin and big loss of West, of unity, of democracy and freedom. That's why I'm not sure that President Trump, if he will be the president, that he want to be really, that he want to lose. And I think that's mean not to help Ukraine.
Bon, Natasha Polony, il y a sans doute une part de méthode couée dans ce que dit Volodymyr Zelensky. Cela dit, même sans parler de négociation ou de deal, tout simplement, si les États-Unis arrêtent de financer des armements, arrête de donner de l'argent à l'Ukraine, ça change aussi beaucoup les choses sur le terrain.
Évidemment. Et d'ailleurs, les États-Unis ont déjà, là aussi, baissé leur financement. On a vu les difficultés qu'il y avait. Joe Biden n'arrivait pas à faire voter les aides. Et ce qui est terrible, c'est qu'en effet, comme vous le disiez à l'instant, l'accord qui est en train d'être discuté est peut-être moins favorable à l'Ukraine que celui qui était discuté en avril 2022 et dont certains ont dit que c'était la Grande-Bretagne qui l'avait fait échouer. Ça, saura-t-on jamais exactement comment ça s'est passé. Donc, ça signifie qu'il y a là quelque chose qui est en train de se jouer, qui est très important. Pourquoi? Parce que si Donald Trump met en œuvre cela, s'il était élu et s'il mettait cela en œuvre, la question est celle, en effet, des divisions qui apparaîtraient entre Européens. Et c'est ça le pire danger pour l'Europe, c'est qu'on verrait un éclatement, on verrait au grand jour, en fait, les positionnements différents vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de la Russie.
On va y venir quand on va évoquer vraiment la défense, la notion de défense européenne. Mais et si Kamala Harris est élue, restons au conditionnel, qu'est-ce que ça changerait? S'alignerait-elle sur les positions qui sont déjà réductionnistes un petit peu, hein, quant à l'aide à l'Ukraine?
C'est la vraie question. Alors, sur laquelle discutent un certain nombre d'experts européens, américains, pardon, que j'ai rencontrés, européens aussi d'ailleurs.
Vous rencontrez tous un paquet d'experts.
C'est que, voilà, ils ont des points de vue assez opposés. Pour les uns, ils considèrent qu'avec Kamala Harris, ce serait la continuité de la politique d'Obama, d'abord, parce que c'est quand même Obama qui a commencé, je le dirais, à ne rien faire, d'abord en Syrie, avec les massacres chimiques de la Ghouta, alors que le président Hollande, justement, était prêt à intervenir, avec l'absence de réaction après le siège et la chute d'Alep, etc. Et puis, après, Joe Biden a, en quelque sorte, continué, en restant toujours à mi-chemin. D'ailleurs, le président Zelensky a dit que 10% de l'aide qui a finalement été votée par la Chambre des représentants est arrivé à bon port. Donc ça, ce serait la continuité. Mais continuité désastreuse en termes de sécurité européenne, parce qu'on sait très bien que Poutine ne s'arrêterait pas là. Soit, il y a l'autre hypothèse, avec son nouveau conseiller de sécurité, si elle était élue, qui est l'actuel Philip Gordon, qui est probablement un peu différent, malgré tout, de Jake Sullivan, l'actuel conseiller de Joe Biden, et l'un qui pourrait se dire, je veux marquer l'histoire, je veux aller plus loin. Parce qu'il y a quand même une pression aussi d'un certain nombre d'Européens, pas tous, hein, ça c'est tout à fait exact, qui disent, attendez, si l'Ukraine tombe, nous serons les prochains sur la liste. Donc voilà, donc il y a cette incertitude, c'est inconnu, je ne veux pas trancher.
Mais vous n'êtes pas d'accord, Natacha Polony?
Je
ne
suis pas tout à fait d'accord. D'abord parce que l'idée Poutine irait plus loin, c'est tout à fait complexe à manier comme argument, parce que dans la mesure où il a été incapable de prendre Kiev, on ne voit pas bien comment tout à coup il se lancerait à l'assaut des Pays-Baltes ou de la Pologne. En revanche, ce qui est intéressant,
c'est... plusieurs reprises.
Ça, qu'il menace, ça fait partie de la rhétorique poutinienne, en effet. La question, c'est, je veux dire, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. La Pologne et les États baltes sont dans l'OTAN. Ce n'est pas du tout la même chose. En revanche, l'enjeu pour l'Union européenne, c'est évidemment de faire en sorte que l'Ukraine ne perde pas, que... Alors, hélas, on se dirige vers un conflit gelé, ça risque de finir comme la Corée. Simplement, il faut que l'Union européenne ne termine pas rincée. C'est ça le problème, parce que pour l'instant, rincée économiquement, rincée géostratégiquement, c'est-à-dire que là, ce qui se dessine, c'est qu'en effet, l'Europe est dans une phase d'effacement. Cette guerre a profondément affaibli les économies européennes et en plus les divise, parce qu'en effet, comme ça a fragilisé le modèle allemand, les Allemands essayent de sortir leur épingle du jeu, de se sauver, quitte à fragiliser
chacun
les autres.
Chacun pour soi.
Donc, bien sûr, c'est le chacun pour soi. C'est de cette situation dont il faut sortir.
On a parlé de l'OTAN, donc cette vaste alliance militaire pour l'essentiel occidentale. Alexandra de Hoopscheffer, il y a eu des déclarations, là, pour le coup, assez différentes entre les deux candidats. Donald Trump, au début de la campagne, a laissé planer une menace, disant « Moi, les pays européens qui ne payent pas assez pour leur défense, je n'irai pas les sauver », en contradiction avec les traités qui prévoient que tous les pays sont solidaires si un pays, justement, par exemple un pays balte, est attaqué. C'était un propos de campagne ou, à votre avis, il y a du fond derrière ?
Non, il y a du fond là derrière parce que Trump est un profond transactionnel, c'est un businessman. C'est son livre, ses différents ouvrages montrent qu'il aime les deals, il aime le business et donc il voit l'Alliance Atlantique comme une transaction. C'est-à-dire que nous, les Américains, on va vous protéger, Européens.
En échange de...
Mais en échange de, et notamment en échange de, il faut que vous suiviez la politique américaine vis-à-vis de la Chine. Et donc, il y a tout un marchandage, mais là encore, que moi, je vis en fait au quotidien dans les dialogues transatlantiques. C'est-à-dire que de plus en plus, le langage américain, c'est de dire aux Européens, on est là pour vous, le gendarme américain est de retour en Europe parce que vous êtes incapable d'assurer votre propre sécurité sur votre propre continent. Mais en échange, on va vous demander de nous suivre, notamment vis-à-vis d'une politique de découplage technologique, industrielle, par rapport à la Chine. Et là, effectivement, l'Allemagne, tout particulièrement, est dans la cible des Américains et le serait encore plus si Trump était réélu. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, par rapport à la Chine, elle ne fait pas ce que les États-Unis lui demandent de faire, c'est-à-dire d'investir moins dans le marché chinois et de vendre moins de véhicules chinois allemands vers la Chine. Par rapport à la Russie, l'Allemagne croit toujours qu'elle pourra finir par acheter du gaz et du pétrole russe. Et puis, par rapport à la défense, qui est liée à votre question sur l'OTAN, l'Allemagne ne dépense pas suffisamment en matière de défense.
Alors, on va évoquer avec vous, Fanny, les alliés de Trump sont-ils plus nombreux en Europe qu'en 2016 aujourd'hui, qu'en 2016, et aujourd'hui, s'il est élu?
Oui, à commencer par Viktor Orban, le premier ministre hongrois, qui l'a dit très clairement. Il ouvrirait plusieurs bouteilles de champagne si Trump était de retour, ce sont ses mots. Les deux hommes s'apprécient. Donald Trump a récemment reçu Viktor Orban dans sa résidence de Mar-a-Lago. Il s'inspire de sa manière de gouverner. Quant à Orban, eh bien, il a transformé le slogan fétiche de Donald Trump en « Make Europe Great Again ». Trump et Orban partagent notamment une hostilité aux migrants, une haine des woke, des progressistes et une exaltation des valeurs traditionnelle, exactement comme le Premier ministre slovaque Robert Fico et Geert Wilders, dont le Parti pour la Liberté est membre de la coalition au pouvoir aux Pays-Bas et qui est d'ailleurs lui-même surnommé le Trump néerlandais. D'autres dirigeants européens soutiennent Trump sans pour autant faire la publicité. On pense à Giorgia Meloni, la première ministre italienne, pourtant proche de Joe Biden, qui a conservé des liens avec les pro-Trump et notamment avec Elon Musk, qui a versé des millions de dollars pour la campagne de Trump. Donald Trump est enfin très populaire au sein de partis d'opposition européens, issus en particulier de la droite radicale, ANO, République tchèque, Vox en Espagne, l'AFD en Allemagne. En France, le Rassemblement national ne le soutient plus officiellement parce que ses outrances entachent la politique de polissage du parti. Et les membres du RN ont d'ailleurs été priés de taire leur admiration pour Trump. Cela dit, Jordan Bardella, le président du parti, assume, je cite, « aimer le patriotisme du candidat républicain ». Nicolas Tenzer, si Trump l'emporte, est-ce qu'on risque d'avoir une Europe coupée en deux, capable d'avoir une seule et même voix ?
Alors ce serait même un peu plus grave que cela. C'est-à-dire que si l'on assiste à une nouvelle victoire de Trump, ce sont tout simplement les valeurs de la démocratie, de la liberté, de l'état de droit, des sociétés ouvertes qui se trouveraient menacées. Et je dirais que la victoire de Trump apporterait une forme de légitimation à ce discours qui est surtout situé du côté de la droite radicale. Et c'est ça qui serait sans doute le plus dangereux, parce que du coup, il n'y aurait plus aucun de frein si le pays qui était censé, avec beaucoup, bien sûr, de limites, d'hypocrisie, etc., représenter finalement la défense de la liberté, des valeurs ouvertes, les équilibres entre les pouvoirs, se trouvait menacé, et de nouveau menacé sur le plan démocratique. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'élection du Trump, c'est pas uniquement la question des droits tarifaires, du protectionnisme dont on parlera plus tard, enfin bien sûr, ce sont des vraies questions, mais c'est vraiment la question de la liberté fondamentale, des libertés. C'est quand même, dans Trump, il y a tout simplement le mépris des valeurs de justice, et quand on voit ce qui se passe avec Orban, Fico, donc en Hongrie, en Slovaquie, vous avez exactement le même type de politique systématique comme avant avec le PiS en Pologne.
Natacha Polony, on sait justement que Viktor Orban inspire Trump, notamment justement pour ce qu'il a fait de la démocratie illibérale. Est-ce que vous pensez effectivement que c'est la démocratie qui est en danger s'il est élu ?
Je pense surtout que les uns et les autres, tous ceux que vous avez cités, sont un symptôme. Et qu'il serait temps d'essayer de comprendre comment on en arrive à Donald Trump. C'est-à-dire comment on en arrive à ce qu'en effet, quelqu'un qui se comporte de cette façon-là, qui insulte, qui est parfaitement idiot dans son discours, puisse, quoi qu'il fasse, avoir un tel stock de voix, et on voit ce genre de phénomène se développer en Europe. Donc déjà, le premier point, c'est ça, c'est arrêter d'essayer de juger en termes moraux et essayer d'analyser et de comprendre. Deuxième point, il y a eu un seul avantage à l'élection de Donald Trump en 2016. Un seul. Enfin, peut-être que j'en oublie d'autres, hein, mais
allez-y,
un seul.
Allez-y.
Qui est le fait que les Européens se sont enfin aperçus que les États-Unis n'étaient pas forcément justement le champion de la liberté que l'on voulait voir, et que c'était avant tout un pays qui pratiquait une forme d'impérialisme économique, et que donc il fallait s'en protéger et utiliser la construction européenne pour créer une puissance. On en est loin, il va falloir du temps, mais au moins on a commencé à comprendre ce genre de choses.
Donc, mais ça serait la meilleure nouvelle, Trump, du droit la réélection américain, de Trump.
Pardon, c'était pas Trump qui l'avait inventé, ça existe depuis Obama, c'est-à-dire le torpillage de toutes les entreprises européennes pour imposer une vision américaine.
Donc, pour une prise de conscience de là où on en est économiquement et de ce qu'il faut qu'on fasse, les Européens, ce serait la meilleure nouvelle, l'élection de Trump ?
On a commencé à le comprendre sous Trump, mais qu'ensuite, avec Biden, on est revenu en fait à une forme de statu quo. C'est-à-dire que les gens disent « Ah, Biden, c'est un pro-européen, c'est quelqu'un qui comprend l'Europe. » Et en fait, dans les faits, il n'a pas autant démontré ça dans la réalité. Enfin, on s'est pris AUKUS, cette alliance qui a mis à mal et qui a mis à mal les sous-marins français. Le retrait chaotique d'Afghanistan, qui a aussi mis à mal l'alliance atlantique.
Sous Joe Biden. Vous voulez dire que si Kamala Harris gagne cette nuit ou demain, ça sera la même chose pour l'Europe, pour nous ?
Ce qu'il faut se dire, c'est que Trump, en fait, n'est pas une parenthèse. L'erreur, ça a été de se dire que Trump, ça a été 4 ans. Biden, c'était en gros le retour à la normale, mais non, Trump, il peut éventuellement être élu président. Et effectivement, ça montre que Trump représente quelque chose, il résonne auprès d'une grande partie du peuple américain, et dans le sens où, en fait, il personnifie, alors d'une manière peut-être brutale, vulgaire, etc., mais il incarne une contestation à la fois de l'establishment américain, et ça, on le ressent aussi partout en Europe, c'est-à-dire que les citoyens se disent on n'est pas représenté par l'élite qui est au pouvoir, et une contestation aussi de ce que font les États-Unis sur la scène internationale. Et ça, c'est lié à votre question sur l'OTAN, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté, comme il y a pu y avoir il y a 10 ou 15 ans des Américains, de voir une Amérique aussi engagée dans les conflits, dans les guerres, dans les alliances, parce que Trump, de manière très astucieuse, l'a ramené à la seule et unique question, combien ça coûte aux États-Unis, alors que les États-Unis en bénéficient.
C'est pour ça que dès 2018, Trump a incarné la guerre commerciale contre les Européens, et c'est l'objet de notre archive. Regardez les barrières douanières.
La voici. La déclaration de guerre commerciale tant redoutée, signée il y a 3 mois par Donald Trump. L'ultimatum vient d'expirer. Ce soir à minuit, Washington impose des taxes sur l'acier et l'aluminium européen. Pour enfoncer le clou, le secrétaire américain au commerce met en garde.
Souvenez-vous que l'économie américaine pèse 18 000 milliards de dollars. Si l'Union européenne veut lancer des représailles commerciales, ça ne touchera même pas 1% de notre économie.
Avant même l'annonce de Washington, les Européens se sont mis en ordre de bataille pour faire face aux États-Unis. Dès ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire dégaine la métaphore façon western.
Le commerce mondial, ça n'est pas règlement de compte à Hockey Corral.
Des représailles devraient être annoncées dans la soirée.
Nicolas Tenzer, alors il y a eu ces surtaxes décidées par Donald Trump. Il en promet de nouvelles s'il est élu, mais Kamala Harris, elle, est-ce qu'elle ne sera pas dans le même mouvement de faire une guerre commerciale qui peut nous nuire, nous,
alors, à l'Europe. Je ne sais pas si c'est une guerre commerciale, mais un affrontement commercial et un égoïsme américain, certainement. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Joe Biden. Regardez tout simplement l'Inflation Reduction Act, l'IRA.
Donc ce sont des subventions données aux entreprises qui s'installent aux États-Unis.
Regardez également le Buy American Act, regardez également toutes les mesures sur les technologies. Donc vous avez quelque chose qui a nuit gravement aux Européens. Mais le vrai sujet... D'ailleurs, on le voit aussi, par exemple, dans le rapport Draghi récemment, le vrai sujet, c'est aussi la capacité de réponse des Européens.
Les Européens rapport Draghi qui évoquait l'agonie du continent en termes économiques et technologiques.
Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, sur l'Europe, nous sommes tous contre chacun, plus court que les uns avec les autres.
Vous voulez dire qu'il faut prendre des mesures d'investissement. Il faut se préparer à des mesures de rétorsion commerciale.
Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes extrêmement faibles. Regardez aussi un autre point, d'ailleurs, sur les sanctions vis-à-vis, par exemple, de la Russie, mais aussi de l'Iran, etc. Les Américains ont tout un programme de sanctions extraterritoriales. Les Européens ont refusé de les mettre en place. Donc le vrai sujet, ce n'est pas tellement la force des États-Unis, c'est la faiblesse de l'Europe.
Natacha Polony, quelle rétorsion éventuelle peut-on mettre en œuvre contre des produits américains qu'on importe en Europe? C'est ça la logique.
Alors, en fait, la question n'est pas là. La question, c'est comment l'Union européenne fait en sorte de favoriser la production sur son sol. Or, le problème, c'est qu'il y a au sein de l'Union européenne des pays dont le modèle économique est fondé sur les exportations et les importations. Par exemple, l'Allemagne et les Pays-Bas. En effet, les Pays-Bas, c'est la porte d'entrée des produits chinois en Europe. Si vous regardez la balance commerciale, en gros, ils ont 120 milliards de déficit commercial avec la Chine et ils ont 170 milliards d'excédents vis-à-vis du reste de l'Union européenne. Donc, tant qu'on aura des pays au sein de l'Europe qui joueront leur propre carte, en effet, on ne protégera pas la production en Europe. C'est ça qu'il faut mettre en œuvre parce que, de fait, les États-Unis, eux, ils ont une politique de préservation de leurs intérêts, alors avec une forme de prédation vis-à-vis des entreprises européennes. On se souvient d'Alstom, évidemment, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.
Alexandra Duch-Schaeffer, ça veut dire que cette élection est l'occasion pour les Européens de sortir d'une forme de naïveté?
Bien sûr, mais... Je veux dire, si le Covid et la guerre en Ukraine n'ont pas déjà sorti l'Europe d'une forme de naïveté, je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire. Alors peut-être, effectivement, que c'est un second mandat de Trump qui fera réellement sortir l'Europe d'une forme de naïveté. Mais là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Europe, elle est de plus en plus prise entre les deux grands, les États-Unis et la Chine. Et nos industries, nos entreprises, tous les jours, subissent les conséquences. C'est-à-dire qu'il y a des délégations américaines qui vont voir l'entreprise ASML aux Pays-Bas, qui est à la pointe de la technologie et qui exporte des hautes technologies, des puces vers la Chine, et qui dit arrêtez d'exporter à la Chine. Et donc les conséquences pour nos industries, nos entreprises européennes sont énormes.
Merci à tous les trois. Trump, l'antidote, qui l'eût cru? Merci d'avoir participé à ce débat et d'avoir exploré notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.